exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours, des sujets qui ont fait la une de la presse internationale, des sujets qui ne font pas forcément la une justement, et vous êtes quelques-uns à souhaiter nous interpeller notamment sur ce meurtre commis au Bénin, un meurtre qui a ému l'opinion nationale. Le procès a eu lieu cette semaine, le verdict ne vous laisse pas indifférent, en tout cas ceux qui vivent au Bénin. On vous donnera la parole, on parlera également du Niger, où l'opposition parle désormais d'une seule voix pour dénoncer la gouvernance. Mais le sujet qui revient le plus depuis quelques jours, incontestablement, c'est la crise politique au Mali. Il y a deux semaines, Mahmoud Diko, l'influent religieux, chef religieux aux côtés de partis politiques et d'associations de la société civile, avait réussi à mobiliser des dizaines de milliers de manifestants pour demander la démission du chef de l'État. Eh bien, cet après-midi, Mahmoud Diko appelle de nouveau à manifester en masse. On va vous donner la parole. On en parlera évidemment la semaine prochaine. On dressera un bilan ensemble. Pour commencer, Aliou, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Aliou. Vous allez manifester visiblement tout à l'heure. C'est ce que vous disiez au Standard.
Oui. Absolument, oui.
Place de l'Indépendance. Alors pourquoi? Dites-nous.
Oui. Parce que on a été déçu de tout ce, toutes ces promesses. Parce qu'il a été tout le temps là en train de promettre. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on m'a dit qu'il a fait une manifestation de volonté, mais c'est faux. Durant tout ce temps, pourquoi il n'avait pas proposé ça? Il faut attendre que tu sois dans cette situation pour nous proposer l'amélioration de la situation scolaire. Je me dis aujourd'hui, il est important qu'il parte pour non seulement revoir la constitution de la Cour constitutionnelle du Mali, et aussi qu'on sache que désormais, l'État, c'est une continuité. La sécurité, n'en parlons pas. Quand lui venait, c'était Kidal seulement. Mais aujourd'hui, on remarque que c'est Bamako même. Donc finalement, je pense qu'il a intérêt à partir honnêtement pour le bonheur s'il est réellement malien.
Donc vous lui reprochez, j'ai cru comprendre, l'enlisement de la situation sécuritaire. Vous lui reprochez la crise qui secoue l'école malienne. C'est suffisant pour demander à un chef de l'État, pour demander à un président de démissionner?
Absolument oui. Mais vous ne savez pas qu'un pays repose sur l'éducation? Un homme politique qui n'aime pas l'avancée de son pays va piétiner l'éducation? Vous conviendrez avec moi quand même que c'est le Mali qui l'a lui formé lui. Pourquoi il peut être contre le Mali?
Vous avez l'impression qu'il est contre le Mali. Pourtant, dimanche, il s'est adressé aux Maliens. Il s'est adressé à la nation. Il a dit « Ma porte est ouverte, ma main toujours tendue ». Donc c'est une main tendue aux opposants qui réclament sa démission. Il dit en substance, venez me voir, dialoguons et trouvons des solutions.
Mais je veux vous dire que cette main tendue, c'est du folklore. Il n'a jamais tendu la main. S'il tendait la main, on ne serait pas là. C'est une manière, aujourd'hui, il est face à une situation, c'est une manière de calmer les choses. Après, il va reprendre ses anciennes habitudes. Il n'a pas la carrure de gestion.
Alors, il n'a pas la carrure pour gérer un pays. En tout cas, il a été réélu il y a 2 ans, je vous le rappelle. Mahamadou, bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez, vous allez bien?
Bah, écoutez, très bien, ravi de débattre avec vous, auditeurs maliens, de cette crise qui ne vous laisse pas indifférent. Mahamadou, vous ne comprenez pas les manifestants?
Non, pas du tout, je ne les comprends pas du tout. Moi, j'estime que c'est mieux vraiment de parler avec le gouvernement, de négocier, que là qui demande aujourd'hui son départ, sa démission forcée. Les revendications dans la manifestation, certaines, elles sont légitimes, je suis d'accord. Parce que, vraiment, le président de la République, il a échoué dans beaucoup de plans, c'est normal. Mais si lui-même, le président de la République, tend la main aux Maliens et à certains manifestants de dire, venez, ensemble, on va travailler ensemble, on va bosser, on va gérer les pays ensemble, il faudra accepter ça aussi.
Ouais. Il s'est dit prêt, lui, à un gouvernement d'union nationale.
Voilà, il dit qu'il est prêt à former un gouvernement d'union nationale. Bon, maintenant, si les responsables du M5-RSP...
Du mouvement, les responsables du mouvement dit du 5 juin, en référence au 5 juin dernier, lorsqu'il y a eu cette impressionnante manifestation Place de la Dépendance à Bamako.
Absolument. Donc maintenant, s'il y a des talentueux parmi eux, le président de la République dit qu'il a besoin d'eux pour gérer ensemble les pays. Donc il faudra qu'ils acceptent.
Oui.
Pour gérer le pays, le du Mali ne se résume pas à la personne du président de la République. Au contraire, son départ forcé va envenimer la situation du pays. Donc je suis pour la manifestation, il y a certaines revendications, elles sont légitimes, l'exigence de la bonne gouvernance, et ensuite la dissolution de l'Assemblée nationale, et la dissolution de la Cour constitutionnelle.
Ah bah ça fait déjà trois revendications que vous approuvez. Et puis si l'enlisement de la situation sécuritaire, c'est une réalité aussi.
Absolument.
La crise qui secoue l'école malienne, c'est une réalité aussi.
Je suis d'accord.
Voilà.
Ça,
donc on voit bien que la liste est longue. La liste est longue. Mahamadou, en tout cas, merci infiniment. Aliou, merci d'avoir appelé également. On aura l'occasion évidemment la semaine prochaine de revenir sur la crise malienne, de voir ensemble ce qui s'est passé ce week-end et ce qu'il en sortira. Évidemment, y aura-t-il des rencontres demain, après-demain? On verra ça ensemble et on analysera évidemment l'évolution de la situation. Je vous le disais tout à l'heure en préambule. C'est un meurtre qui a ému le Bénin. L'assassinat, il y a maintenant un peu plus de 4 mois, de Gracia Prunel, une jeune fille de 7 ans. Elle a été tuée pour ses organes susceptibles de servir à fabriquer un savon magique. Le procès de ce crime rituel était très attendu. Le verdict a été rendu en début de semaine. Bonjour Louis.
Bonjour Juan.
Vous nous interpellez justement sur les crimes rituels dans votre pays, le Bénin. Je précise que le meurtrier a été condamné à la réclusion criminelle. En revanche, le commanditaire de ce drame a été acquitté au bénéfice du doute. Vous avez compris, vous, ce verdict ?
Oui Juan, à un moment donné, je n'ai pas été surpris en quelque sorte de ce verdict-là, surtout en ce qui concerne le commanditaire. Parce que très souvent au Bénin, le mal est plus profond qu'on ne le pensait, puisque cela implique plusieurs acteurs, notamment les gardiens de la tradition. En un mot, tous ceux qui ont un lien entre autres avec le vaudou, qui est une identité culturelle et cultuelle du Bénin. Et là, dans ce cas, il est souvent difficile de justifier les crimes ou de traquer les vrais auteurs jusqu'au bout. Parce que vous voyez, le dernier cas, celui pendant devant les tribunaux, est la preuve, puisqu'il est souvent difficile de remonter la piste jusqu'aux vrais commanditaires qui ne sont rien d'autre que les détenteurs des fétiches, ce que nous appelons chez nous ici les bokono.
Oui.
Donc, en définitive, certes, la justice fera son travail, mais sera limitée si on n'associe pas les chefs religieux traditionnels qui doivent assainir ce secteur et surtout éradiquer les brebis galeuses qui commandent les parties du corps humain pour des rituels. En un mot, ça regroupe beaucoup plus les chefs religieux parce que très souvent, ce sont ces gardiens de la tradition, ces bokonons qui commandent les gens à vouloir chercher les parties du corps humain pour le faire. Et donc, pour ce cas d'espèce, il serait vraiment difficile de condamner le commanditaire parce que le commanditaire aussi peut-être a reçu l'ordre de quelqu'un d'autre, qui n'est rien d'autre que le chef fétiche, le chef de la tradition.
En tout cas, visiblement, le commanditaire cherchait à faire prospérer son arnaque sur Internet. Hein, il avait réussi à créer sa petite affaire pour arnaquer de simples citoyens et il avait demandé donc à celui qui sera le meurtrier d'assassiner une jeune fille de 7 ans, car avec ses organes, on peut, dit-on, fabriquer un savon magique. En tout cas, Louis, vous, en tant que père de famille, vous disiez au Standard avoir peur pour vos enfants.
Tout à fait, tout à fait. Avoir peur pour les enfants parce que c'est depuis longtemps, ce phénomène existe toujours. Et pratiquement, je vais dire, tout le temps, on a l'habitude de voir des corps mutilés. À des moments donnés, on cherche, on fait l'enquête, mais on ne retrouve pas forcément le vrai auteur. On ne retrouve pas. Ouais. Mais au fond, on sait que ça ne peut qu'être un féticheur quelque part qui a commandé. Ça ne peut qu'être quelqu'un qui peut-être a des fétiches, qui a commandé tel acte pour pouvoir essayer de faire un travail commandé par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez ?
Tout à fait. Je vois bien votre raisonnement et je comprends bien où vous voulez en venir. Louis, merci infiniment de nous avoir appelés. Bonne fin de semaine à Cotonou. Prenez soin de vous, évidemment. On va parler du Niger maintenant, puisque vous avez été quelques-uns, il faut le dire, quelques-uns à nous appeler. Après cette décision de l'opposition de ne parler que d'une seule voix pour dénoncer la gouvernance au Niger. Une gouvernance, je cite le communiqué de l'opposition, marquée par la gabegie, l'insouciance et la cupidité. Bonjour Ali.
Bonjour Juan.
Vous avez raison, dites-vous, l'opposition a raison de parler de mauvaise gouvernance.
Oui, tout à fait. Permets-moi d'abord rendre un hommage à toute ton équipe qui travaille dans l'ombre et à toi-même pour le travail que vous abattez. Vraiment, il faudrait bien qu'on vous rende hommage.
Bah écoutez, c'est gentil. Et merci à vous de nous écouter et de nous appeler.
Oui. Donc, rentrant dans le vif du sujet, l'opposition, dans tout ce qu'elle a eu à annoncer le 12 juin passé, honnêtement, elle n'a pas tout à fait tort sur toute la ligne. Quand on regarde de près, le président de la République, lui-même, ça ne fait pas longtemps, il affirmait que le terrain sur lequel il n'a pas réussi, c'est bien la lutte contre la corruption.
Donc, oui.
Le seul problème pour l'opposition, c'est que durant longtemps, durant toutes ces années-là, elle n'a fait que parler de manière individuelle. C'est maintenant qu'ils ont compris qu'il fallait être ensemble pour parler d'une même voix par rapport à une préoccupation commune.
Ouais. Surtout qu'on est à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que c'est le bon moment, justement, d'essayer de faire pression sur le gouvernement ?
Justement, ce n'est pas évident. Parce que ce que les Nigériens reprochaient justement à l'opposition, c'est quoi ? Peut-être vous me permettez de dire un tout petit peu. L'actuel président, quand il était à l'opposition, il a su ramener sur le débat un détournement au niveau du ministère de l'Éducation qu'ils ont appelé affaire Neba. Ils ont eu à dénoncer et à faire prendre conscience sur les lettres d'autorisation de paiement, les paiements par anticipation. Tout ça, ils ont dénoncé et ça a payé. Il y a eu des ministres qui ont été emprisonnés. Aujourd'hui, l'opposition n'a su mettre aucun problème sur la SELEC. Au contraire, l'audit a été commandité, on dit, par le président de la République, ce qui affaiblit quelque part l'opposition dans sa revendication. Et à quelques mois des élections, on pense bien que le plus important aujourd'hui pour l'opposition, c'est de tendre vers ces élections-là, mobiliser sa troupe et faire changer la chose s'ils le veulent bien. Parce qu'au cas contraire, ils vont regarder, ils vont être passifs, les élections vont se dérouler, ils vont boycotter et le Niger ne peut pas s'offrir le luxe de reprendre des élections.
Ça, oui, enfin, pour l'instant, excusez-moi Ali, pour l'instant, rien ne dit que l'opposition a l'intention de boycotter la présidentielle à la fin d'année.
Pas du tout. Mais ils ont dit dans leur déclaration du 12 qu'ils vont se prononcer sur les élections. Du reste, ils n'ont aucun intérêt à les boycotter.
Ben voilà, oui. Non, mais c'est vous qui l'évoquez. C'est vous qui avez parlé de boycott, Ali. On aura l'occasion de suivre, évidemment, dans les prochains mois, l'évolution de la situation politique au Niger et les préparatifs de cette élection présidentielle attendue, puisque le président sortant ne se représente pas. Le président sortant a dit qu'il respecterait la Constitution, donc il ne sera pas candidat à sa propre succession. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous interpeller sur ces statues qui font polémique, celles de figures historiques associées à l'esclavage ou à la colonisation. On a longuement débattu avant-hier, d'autant que depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, plusieurs actions ont été menées pour s'attaquer justement à ces statues considérées comme les symboles d'un passé raciste. Et le débat est lancé. Que fait-on de ces statues ? Faut-il les déboulonner ? Faut-il les conserver pour la mémoire ? Les conserver dans un but pédagogique ? Bonjour Franck.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Londres, oui. Et je le précise, Congolais de Brazzaville, et c'est important au regard de ce que vous allez nous dire.
Exactement. Alors moi je suis toujours choqué et je pense qu'il est temps que les Congolais puissent y réfléchir. La statue ou le mausolée des Brazzas qui est à côté de la mairie, en plein centre de Brazzaville, je trouve que je pense que c'est un scandale quand même.
La statue de Pierre Savornian de Brazza.
Savornian de Brazza, qui est à Brazzaville.
Qui fut l'un des grands artisans de la colonisation française, je le précise pour nos auditeurs. Mais un colonisateur présenté, enfin un homme présenté comme un colonisateur humaniste.
Mais non, c'est pas vrai.
Alors, je vous dis comment il est présenté. Maintenant, c'est votre point de vue de contredire, évidemment.
Mais non, Pierre Savoyant de Brazza, les historiens le savent bien. C'est un monsieur qui a violé a violé les princesses Bateke et ça lui a même valu son casque colonial. Si vous regardez bien, la reine Ngalifourou porte le casque colonial de Brazza et partout où il est passé, Brazza a laissé des viols. Enfin, il a violé des femmes congolaises. Donc moi, je pense que Brazza ne devait pas avoir cette place de choix, alors qu'au Congo, il y a des grands résistants, il y a des gens comme des Matois. On devait avoir des statues des Matois, partout des gens qui ont lutté contre cette mission qui était venue. Donc, je pense qu'il est grand temps que les gens réfléchissent. Et en plus,
donc vous
le
dites...
nom de la ville, Brazzaville, normalement, Brazzaville a son nom qui est l'Amphoa. Ce nom, le Congo paye à la famille des Brazza des sommes énormes pour maintenir ce nom.
Alors je ne sais pas si ça m'étonnerait. Enfin, je veux bien vous croire sur parole, mais qu'on paye encore aujourd'hui des sommes énormes pour conserver le nom de Brazza à la famille Brazza. Bon, j'ai quelques doutes. Hein. Permettez-moi d'émettre quelques doutes, Franck. En tout cas, vous avez contribué à la réflexion. Vous dites qu'il faut déboulonner cette statue. Vous êtes à Londres, sur place en Grande-Bretagne, le débat fait rage tout de même. Il y a eu des statues déboulonnées ces derniers jours également.
Oui, exactement. Oui, il y a eu aussi des statues déboulonnées en commençant par les statues de Colston à Brixton, mais il y a aussi à Londres, il y a plein de statues. Bon, on a même vu des suprémacistes aussi vouloir demander à qu'on déboulonne la statue de Mandela, mais bon, il y a toujours des dérapages. Donc, du point de vue, comme je disais, au Congo, en dehors de Brazza, on doit aussi rebaptiser les lycées. Et d'autres ruelles, normalement. Oui.
En tout cas, puisque vous êtes au Royaume-Uni, je suis en train de regarder que il y a la statue à Oxford d'un colon britannique qui a été retiré d'ailleurs de l'Afrique du Sud, la statue de Cecil Rhodes. Eh bien, il y a une statue Cecil Rhodes à l'université d'Oxford. Eh bien, cette semaine, les responsables de la faculté se sont prononcés en faveur du déboulonnage de cette statue. Merci, Franck. Je sais qu'il y avait d'autres auditeurs qui souhaitaient réagir à ce débat passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains jours. Lionel, bonjour.
Bonjour Anne Gomez, bonjour particulier à toute l'équipe de l'appel sur l'actualité.
Merci de vos encouragements. Vous êtes à Kinshasa et vous réagissez, au salaire des députés, salaire qui fait polémique puisqu'il réclame une hausse de 2 000 $ par mois.
Écoutez, Juan Gomez, permettez-moi de revenir un petit peu aux élections 2018. C'est vrai que je ne vais pas refaire toute l'histoire puisqu'on n'a pas de temps.
On a surtout vous avez surtout 2 minutes devant vous. Donc, si vous parlez des élections de 2018, je ne vois pas le rapport avec l'actualité, mais on n'aura pas le temps de parler de ce qui fait l'actualité.
Je voulais juste préciser un élément très important parce que je trouve que les élections 2018 étaient pour nous l'occasion de renouveler, de nettoyer la classe politique. Mais quand je regarde aujourd'hui l'Assemblée nationale, je le précieux que nous avons échoué à cette mission puisque nous avons des personnes insoucieuses, désintéressées qui pensent qu'à leurs propres intérêts, à la place d'intérêt général. Alors la base pour moi de ce que les députés réclament aujourd'hui, c'est la présidence aujourd'hui qui est au centre, qui est un mauvais exemple. Regardez ce qui se passe ces derniers temps.
La présidence, excusez-moi Lionel, vous voulez dire tellement de choses, parler tellement vite qu'on a du mal à vous suivre. Quand vous parlez de la présidence, j'imagine que vous parlez de la présidence de l'Assemblée nationale. Là, on parle de la présidence de l'Assemblée nationale ou on parle de la présidence de la République.
Mais pourquoi je parle de la présidence de la République? Pourquoi? Parce que les députés, dans leurs raisons, dans leurs justifications, ils disent et pourquoi pas nous? Donc, les députés font aussi référence justement à toutes les dépenses qu'il y a eu, le détournement à la présidence. Mais quand même, cela n'excuse pas.
Lionel, on n'est pas dans le sujet. On n'est pas dans le sujet. Je veux bien que vous profitiez de l'antenne pour partir dans tous les sens et un coup de gueule général. Enfin voilà, essayons de construire un raisonnement, d'avoir un point de vue sur un sujet bien précis. Là, vous partez sur tout. Ça n'a aucun intérêt. On ne comprend rien du tout, c'est dommage de terminer la libre antenne ainsi. En tout cas, voilà, vous nous avez appelé, on vous a donné la parole et vous êtes quand même le bienvenu une prochaine fois, évidemment. Lundi, on sera de retour avec vos questions à la rédaction et puis en deuxième partie d'émission, notre débat qui sera consacré au procès de Vital Kamerhe, procès sans précédent en République démocratique du Congo puisque c'est la première fois qu'un directeur de cabinet du président de la République est poursuivi dans une affaire de détournement de fonds publics. Le ministère public a sollicité une condamnation à 20 ans de travaux forcés. Le verdict sera rendu demain. Eh bien, vous pourrez le commenter lundi. Merci à tous de votre fidélité. Prenez soin de vous et excellente fin de semaine. Bonjour Caroline Paré.